Seigneur, attendez. Ne parlez pas tous à la fois.
Je vous demandais pourquoi vous avez pris un habit d'homme.
Il était bien pour faire œuvre d'homme, avec des hommes, de prendre un habit d'homme.
Vous avez refusé de quitter cet habit depuis que vous êtes en prison. Cependant, l'Église vous défend de le porter.
Je ne sais pas ce que vous appelez l'Église, mais c'est notre Sire Dieu qui m'a commandé l'œuvre. Pourquoi j'ai dû prendre un habit d'homme? Et tant que mon œuvre ne sera point parfaite, je ne quitterai pas l'habit d'homme.
Est-ce que ce sont vos voix qui vous ont commandé de prendre un habit d'homme?
Cela ne vous regarde pas.
Maître Thomas de Courcelles vous a demandé s'il est vrai que vous ayez mis le signe de la croix, qui est divin, sur vos lettres, afin de tromper ceux qui les liraient innocemment.
J'ai bien fait, puisqu'il est divin, de m'en servir pour ce que Dieu m'a commandé.
Vous venez d'entendre deux extraits successivement du nouveau film de Bruno Dumont qui s'intitule Jeanne et qui sortira sur tous les écrans demain en France. C'est un film France Inter. Nous sommes enthousiastes après avoir vu ce film. Nous allons parler de cinéma, mais aussi d'histoire de France et de spiritualité avec Bruno Dumont qui est en direct ce soir dans notre studio. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et nous allons commencer avec Camille.
J'ai tout dit, j'ai terminé ma phrase. Tout dit, j'ai tout dit, c'est gravé dans le marbre. Tout dit, tu veux que l'on se parle. Tout dit, oh ma sœur Hildegarde. Tout dit, je suis, tout dit, le bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres. Tout dit, j'ai tout dit, j'ai fui à la hussarde. Tout dit, j'ai tout dit, et les rats m'ont suivi. Tout dit, tu as peur pour ma vie. Tout dit, oh ma sœur Hildegarde. Tout dit, je suis, le bruit, de la pluie dans les arbres. Tout dit, j'ai rompu le charme. Tout dit, j'ai tout dit. Maintenant je vous regarde. Tout dit, tu veux sécher mes larmes. Tout dit, oh ma sœur Hildegarde. Tout dit, je suis, le bruit, du vent dans les arbres. Tout dit, sœur, tu donnes un jour ton cœur. Tout dit, oh ma sœur, prends garde. Tout dit, où tu mourras d'ennui.
C'est avec cette merveilleuse chanson de Camille que nous commençons cette émission qui est en affinité secrète avec votre univers, Bruno Dumont. Je rappelle que ça fait plus de 20 ans maintenant que vous nous proposez des films sur des thématiques extrêmement différentes. Un cinéma très intense, un cinéma porté par une exigence du cadre, un cinéma aussi porté par des thématiques de la recherche de la liberté, d'une spiritualité laïque. Mais je voudrais commencer par le paysage de votre enfance et plus particulièrement, pouvez-vous nous décrire la rue de votre enfance ?
La rue de mon enfance, c'est la rue d'Occident, à Bailleul, dont je me souviens très bien. Je m'asseyais souvent dans la rue pour regarder les gens passer. Et c'est sûrement là où tout a commencé, finalement, le regard d'un petit garçon qui regardait les passants, les gens, les Bailleulois. Je me souviens comment la rue était défoncée, était refaite, on retirait les pavés pour remettre du macadam. Donc j'aimais bien assister aux opérations, aux travaux, aux constructions, aux creusements, tout ça. C'était déjà... Je regardais. J'étais un enfant très regardant sur les choses, sur les gens. Et je pense que la sensibilité que je peux avoir en tant qu'homme aujourd'hui, elle est toujours tendue avec le petit garçon. Et c'est pour ça que j'aime bien Charles Péguy, parce qu'il parle du petit garçon, en tout cas il parle de l'enfant qui reste là et qui est tout petit, qui est l'enfance, qui reste à 12 ans ployé dans notre cœur et qui finalement reste toute la vie. Et je suis toujours sensible.
Vous regardiez le réel, mais vous lisiez aussi beaucoup.
Absolument pas. Je ne sais pas du tout.
Alors, comment votre vie a basculé et pourquoi êtes-vous devenu professeur de philosophie ?
C'est devenu beaucoup plus tard, ça. Parce qu'avant, j'étais un enfant insouciant, pas savant du tout. Non, mon enfance était une enfance... C'est-à-dire, pas du tout, j'étais pas lecteur du tout, pas spécialement, je lisais parce qu'il fallait lire à l'école, quoi. Mais non, j'ai pas été du tout, mon mouvement intellectuel a commencé, je pense, plutôt en terminale. Donc c'est assez tardivement quand j'ai découvert la philosophie. Mais avant, j'étais vraiment dans une forme de sensibilité de ce qu'est l'enfance. C'est-à-dire, je pense pas que l'enfant soit un moment d'intelligence au sens, c'est pas cérébral du tout. Donc j'ai un bon souvenir de mon enfance et après la philosophie m'a donné des connaissances, mais elle m'a donné des connaissances finalement sur ma sensibilité que je savais déjà. Donc peut-être que je ne savais pas l'exprimer. Donc la philosophie m'a permis de mettre en branle ma raison, mais j'ai vu aussi la limite. C'est-à-dire, je voyais bien que il y a des choses qui me traversaient, que je ne pouvais pas cerner par le langage et qui n'étaient pas finalement discibles. Et quand j'ai vu le cinéma, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de supplémentaire et une voie d'accès un peu plus profonde. Et quand je fais du cinéma aujourd'hui, quand je filme Jeanne, par exemple, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que l'intelligence, que le cinéma arrive à pénétrer, et on pénètre dans l'enfance, en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve quelque chose que je me souviens quand j'étais petit. Donc l'intelligence, ça n'est qu'un moment comme ça, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus vaste, qu'on appelle la mystique, d'ailleurs quelque chose de beaucoup plus ample, et que l'art est capable, en général, de farfouiller, d'aller toucher.
Mais la mystique, par définition, c'est intérieur, ça n'est pas visible, ça n'est pas reproductible, et vous réussissez à la mettre en image.
Non, je pense que la mystique, c'est justement cette espèce d'accointance entre la psychologie, le corps, le cœur et la nature. Dans la mystique, vous vous connectez au réel. Et j'ai vu très vite que quand je filmais un paysage, c'est pas un paysage que je filme, je suis en train de me filmer moi-même. Et donc le paysage, le cinéma n'est pas du tout...
Attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous filmez vos états d'âme, dans tous les sens du terme.
Non, je filme, ce que je filme n'est pas le réel.
C'est quoi alors ? C'est pas ce que vous voyez par votre caméra ?
Non, c'est une connexion, c'est comment dire ça, c'est une représentation d'un réel qui figure finalement un état d'âme. Et que l'humain n'est qu'une terminaison de la nature et qu'on se remet en connexion et que le cinéma n'est pas le réel. Le cinéma, c'est une représentation de notre relation au réel. et que, voilà, et un paysage flamand, mais comme une peinture, c'est pas le réel. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus intime, et c'est effectivement ce qu'on peut appeler un paysage intérieur, quelque chose de ce qui nous meut, ce qui nous secoue, ce qui est en nous et que on peut représenter en filmant un arbre, un champ de labour. Il y a quelque chose qui fait que quand vous le filmez, c'est plus un champ de labour, c'est une espèce d'au-delà. Voilà, c'est un au-delà. Et je pense que le spectateur le sent. Il sent très bien que c'est ce qu'il voit, c'est quelque chose qui lui permet d'aller au-delà. Je filme toujours quelque chose pour autre chose. Je filme jamais ce que je filme pour en rester là. Donc quand je filme même Jeanne, je filme autre chose. J'ai toujours dit que Jeanne d'Arc ne m'intéressait pas. Mais je pense que quand je filme quelque chose d'autre dont Jeanne d'Arc est la représentation.
Le cinéma, ce n'est pas pour vous la restitution du réel?
Non. Non, non, c'est quelque chose qui a à voir avec ma relation réelle. Ça a à voir avec notre présent, avec notre existence. Le mystère de notre existence dans le réel.
Le fait d'être vivant.
Oui, le fait de faire partie d'un grand mouvement naturel, tout à fait mystérieux. Le cinéma peut en donner une connaissance. Je pense qu'il y a de la connaissance dans le cinéma. Alors, sachant que c'est poétique, mais ça, il y a vraiment une connaissance dans la représentation cinématographique d'un plan, d'une rue de Bailleul. Quand je filme Bailleul, c'est plus Bailleul. C'est quelque chose d'autre dont Bailleul est la représentation. Et je ne sais pas forcément très bien ce que c'est, mais je sens très bien qu'il y a quelque chose qui s'ébranle, qui se met en route et qui fait que je suis en train d'accomplir quelque chose de très tout à fait mystérieux, mais qui a du sens, qui a une connaissance, et qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire que de faire un plan profane, une rue simple, un acteur non professionnel. Il est profane, et en même temps, il est mystifié par la caméra. Et donc la caméra va consacrer l'acteur et le porter dans une réalité tout autre. Mais j'ai besoin du profane de l'acteur. J'ai besoin de la petite Lise là qui a 10 ans, qui est haute comme 3 pommes et qui finalement nous met en connexion, en relation avec l'au-delà. Mais ça c'est le cinéma. C'est pas elle. C'est elle qui, quand elle est filmée.
Quand vous étiez prof de philo, vous avez voulu devenir cinéaste et vous avez échoué aux écoles. Alors comment avez-vous réussi à mettre en image votre propre subjectivité ?
J'ai eu la chance d'échouer, donc j'ai eu la chance de prendre des chemins de traverse. Je pense que la philosophie était très importante, c'est-à-dire c'est quand même elle qui a construit une pensée. Le cinéma, c'est une pensée d'abord, c'est-à-dire que un cinéaste, c'est d'abord quelqu'un qui a une pensée. Ensuite, il va se mettre en ordre pour faire de la représentation. Mais la représentation qui est cinématographique, elle est quand même poussée par une pensée qui se dissout totalement dans le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma pensant, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Mais il faut quand même, au départ, quelque chose qui va se dissoudre, finalement. Moi, je pense que le cinéma, c'est comme le degré zéro de la littérature. C'est-à-dire c'est retourner à la germination des choses. Et c'est la cause de la littérature, c'est-à-dire on remet le réel dans sa brutalité, qui peut inspirer un romancier par exemple, mais le réel cinématographique doit être brut, doit être cru, c'est-à-dire il nous met en relation avec l'image et avec le son, c'est-à-dire avec un réel, un soi-disant réel, comme la rue dont je parlais, dont j'étais enfant, mais c'est un réel qui est en quelque sorte poétique, qui n'est pas la réalité, en fait.
Quand on voit vos films, Bruno Dumont, et ceux depuis 1997, on a l'impression que vous êtes un créateur de formes et d'univers sensoriels. On se souvient que le premier film, c'était La vie de Jésus, ensuite il y a eu L'humanité. On oscille entre des remémorations de tableaux de Bruegel et puis des appels... L'engagé de Paul Claudel, on peut citer ces deux noms, on peut citer évidemment aussi des noms qui vous importent et ô combien avec ce nouveau film consacré à Jeanne d'Arc, c'est celui de Charles Péguy. Mais en tout cas, ce qu'il y a chez vous, dans votre invention ou réinvention d'une forme cinématographique, c'est que pour nous, chacun de nous spectateurs, il y a une forme de liberté, une forme d'illimité. Vous avez commencé par filmer Bailleul, votre propre ville, votre propre enfance. Les visages étaient des paysages, les paysages étaient des visages. Et tout d'un coup, eh ben, il fallait trouver son cadre, son identité. Quelle serait aujourd'hui votre définition du cinéma ?
Ma définition du cinéma ? Je pense que c'est un art... Je reviens toujours à ce mot, ce qui m'importe le plus, c'est un art de la représentation, du mouvement, des images, d'un semblant de réalité qui n'est pas la réalité, quelque chose qui doit avoir l'air de rien, quelque chose de qui pousse à l'humilité, qui pousse justement à essayer de restaurer l'origine du monde, en fait, l'origine des choses, et de filmer un gars du Nord pour essayer de toucher à la substance même de l'être, et qu'il n'y a pas d'autre façon de toucher l'être, justement, par un gars du Nord, tout à fait ordinaire, et que l'ordinaire est connecté à l'au-delà. C'est ça qui m'intéresse au cinéma. La possibilité, justement, d'aller toucher le réel le plus simple, le plus ordinaire, et que ça, c'est la seule façon d'atteindre ce qu'on appelle la vérité, ce qu'on appelle l'au-delà, si l'on veut, et que la méthode est totalement paradoxale. Enfin, c'est un paradoxe, en fait. C'est plus vous êtes simple, plus vous êtes démuni, plus le plan est ordinaire, parce que c'est très difficile de faire un plan ordinaire. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à chercher dans Bailleul la rue la plus ordinaire, et en fait, je dois me débarrasser de toutes les images sur justement la rue la plus belle, la plus harmonieuse, etc., pour retrouver, quand j'ai tourné la vie de Jésus, je me souviens que j'ai trouvé la ferme la plus moche, la plus ordinaire, enfin, qui n'avait pas d'ordre. Et quand j'ai filmé, ce qui se passe, c'est assez étonnant, c'est que quand vous filmez quelque chose qui n'est pas, qui est simple, il y a un surgissement qui a lieu et qui est cinématographique. Et la cinématographie, elle est capable justement de faire surgir dans les formes les plus cachées, les plus retranchées, les plus anodines, justement quelque chose d'absolument gigantesque. Et c'est comme ça que je travaille, en fait. C'est ça que j'ai compris, et c'est pour ça que je travaille comme je travaille, en cherchant les fêlures, les failles, les endroits, les coutures des choses, et non pas les choses construites. Donc il faut justement redonner au spectateur la possibilité de reconstruire lui-même un réel et pas lui donner tout fait, en fait.
Le cinéma comme une épiphanie.
Oui, comme une incantation, c'est-à-dire une préparation. C'est-à-dire on prépare, en fait. On prépare le spectateur à voir, mais c'est lui qui voit. Je pense que le metteur en scène, il doit s'arrêter à un moment donné et laisser le spectateur commencer.
Il y a de la place pour nous dans votre cinéma, Bruno Dumont. Je vous propose d'écouter la voix de Pier Paolo Pasolini. On va l'entendre parler de religion et on va entendre un extrait d'un de ses films, L'Évangile selon saint Matthieu.
Le blasphème, c'est toujours religieux. Vous savez, dans toutes les religions, il y a la bénédiction et la malédiction sont la même chose. La prière et les blasphèmes sont la même chose. C'est la contradiction qui s'identifie dans un même sentiment. Dans toutes les religions anciennes, il y a la mélange entre le blasphème et la prière. C'est-à-dire, dans l'Évangile, j'ai vu l'histoire à travers les yeux d'un homme simple qui croit. Mais Saint-Paul, c'est un pamphlet contre l'Église, parce que l'Église, c'est l'organisation, et l'organisation, c'est la mort des sentiments.
La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe, affinché invii nuovi operai alla sua raccolta. Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Tommaso, Simone, Bartolomeo, Taddeo, Giacomo di Alfeo. Matteo. Giuda Iscariota. Voi sarete gli operai della messe. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Guardatevi dagli uomini perché vi condurranno nei sinedri e nelle loro sinagoghe vi flagelleranno. E davanti a governatori e re sarete portati a causa mia in testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi del come e di che parlerete, perché in quel momento vi sarà suggerito quanto dovrete dire. Non sarete infatti voi a parlare, ma lo spirito del Padre vostro parlerà in voi.
Comment le cinéaste Pier Paolo Pasolini, qui était aussi un poète, comment ce travail-là d'approche de la vérité dont vous avez parlé tout à l'heure, Bruno Dumont, est-ce que c'est quelque chose qui vous est proche?
Ce qui m'est proche, bah oui, c'est la possibilité d'être italien et de faire ce que je viens de vous dire en Italie, en fait. C'est que tout ça, ça se fait partout, dans le... Bon, pour moi, Pasolini, c'est quelqu'un, quand il a fait La Passion selon saint Matthieu, que l'on vient d'entendre, c'est aussi montrer l'endroit où se trouve précisément la vie spirituelle, c'est-à-dire au cinéma, et pas ailleurs, c'est là que ça se passe. Il a remis le Christ à sa place, c'est-à-dire au cinéma, il a mis en scène l'Évangile selon saint Matthieu, et c'est parfait, c'est-à-dire c'est exactement comme ça que ça se passe. Et le spectateur est le bon croyant, c'est-à-dire qu'il croit au cinéma. Au-delà de toutes les superstitions, il se trouve dans la bonne relation avec le religieux, c'est-à-dire un religieux cinématographique, artistique, et qui se termine quand le film se termine. Et l'homme doit revivre en sortant de la salle et être inspiré par ce qu'il a vu pour être humain et retourner probablement au cinéma voir un autre film. Pour rester humain, et voilà, c'est ça le cinéma, donc c'est une importance. Ce qui est malheureux, c'est le cinéma, il m'a parlé de qu'est-ce que c'est que le cinéma, mais le cinéma c'est un art, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de très important, et qui pourrait résoudre tellement de problèmes sociaux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui élève. Donc le pire, c'est le moment où le cinéma est devenu du divertissement, donc c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que l'art cinématographique a été pillé pour devenir du divertissement et servir une industrie qui ne s'intéresse finalement pas beaucoup aux spectateurs et qui cherche plutôt à le divertir, c'est-à-dire à lui faire oublier, alors que le cinéma ne doit pas nous faire oublier, au contraire, le cinéma doit créer une conscience, il doit au contraire nous libérer. Il y aurait moins de problèmes sociaux si justement les politiques considéraient un petit peu mieux les cinéastes et le cinéma. Et quand on a vu les gilets jaunes, quand j'ai vu les gilets jaunes sur les plateaux de télévision, j'ai vu les dégâts de la culture. Voilà les naufragés, voilà ce que c'est que de faire un cinéma cynique, misérable, bah ça détruit des hommes. Et ils sont bien malheureux, sans culture. Et ils rentrent dans la barbarie. Enfin, on l'a vu, on était à deux doigts de passer dans la violence. Et ça, c'est parce qu'on mésestime la culture. C'est même pas le bon mot, la culture. On parle de culture, c'est même pas de la culture, mais moi, je parle de ce que je connais. On mésestime le cinéma. Et moi-même, je suis relégué, marginalisé.
Bah, pas tant que ça. Votre film sort demain. Vous allez sortir dans 80 salles.
Je suis pas malheureux. Non, mais je suis pas tout seul. Je parle pas pour moi. Je parle pour la façon même dont le cinéma français est considéré. Voilà, c'est tout. Il y a quelque chose de pas bien. Alors que c'est un art majeur qui est totalement détruit, perverti par l'industrie du divertissement.
Mais pas seulement. Le cinéma d'art et d'essai subsiste, perdure. Il est aidé par l'État. On vit dans un système français qui est assez protégé encore. Alors
oui, mais ça,
j'espère
c'est la bonne
qu'il va le rester.
Voilà, on le protège.
Qu'il va le rester.
Non, mais on le protège pour faire ce qu'on fait à côté. Donc c'est quand même un...
Ah, vous êtes comme d'autres cinéastes, c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a trop de films qui sortent en France.
Non, je pense pas ça du tout. Donc je pense qu'on est la bonne conscience. Voilà, on aide un peu le cinéma d'auteur, justement, pour massacrer le spectateur à côté. Mais le spectateur ne sera même plus en état. Mettez les spectateurs devant Bergman, devant Rossellini, etc. Vous allez voir, quoi. Ils sont plus en état de le regarder.
Mais pourquoi? Mais bien sûr que si.
Non, je suis pas d'accord avec ça du tout. Non, non.
Mais vous n'avez pas trop de mépris pour les spectateurs et leur désir de voir
de
très grands cinémas?
Au contraire, non, non, attendez, vous me comprenez mal. J'ai tellement d'estime pour le spectateur, je pense, mais le spectateur, il faut, il y a quand même une éducation à avoir au cinéma. On peut pas regarder un film de Bergman comme ça sans connaître l'histoire du cinéma. C'est pas vrai. Ah non, je suis pas d'accord avec ça. C'est un art, c'est une éducation. C'est pas du tout.
Mais je suis pas sûr qu'on puisse pas être saisi par la beauté d'un film de Bergman ou de
Rossellini. Vous et moi, sûrement, mais. Les gamins de 12 ans, allez-y, vous allez voir, sûrement pas. Ah non, non, je pense pas. Non, non,
Donc vous prenez une éducation à l'image à l'intérieur des écoles et le retour, d'ailleurs, on a vécu, enfin moi, dans ma génération, mais je pense aussi que dans la vôtre, Bruno Dumont, vous avez vécu ce temps bienheureux où dans les lycées, il y avait les ciné-clubs,
moi, j'ai
il y avait
vécu
les profs
le temps,
de français et les philos qui nous
moi,
proposaient leur coup de cœur.
Moi, j'ai vécu le temps béni où, où la télévision était estimable et on voyait des choses de qualité. Voilà. Et moi, j'ai vu beaucoup de films, c'est pour ça que j'ai vu beaucoup de films à la télévision. Donc la télévision m'a donné une éducation. Du cinéma. Elle ne fait plus du tout ça. Absolument pas. Donc la télévision.
Elle le fait quand même encore un peu.
Bah non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai.
Et puis il y a la cinéthèque aussi.
Mais on ne sait même pas ce que c'est que la cinéthèque.
Bah si, c'est des cinéastes qui se sont regroupés pour proposer leur coup de cœur filmographique.
Non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est le ministère de l'Éducation nationale. Non, c'est beaucoup plus important que ça. C'est beaucoup plus grave que ça que de laisser les cinéastes entre eux raconter ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. On s'en fout, quoi. Non, vraiment, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que le problème est politique. Tous les problèmes esthétiques sont des problèmes politiques. Moi, je vous parle d'un problème esthétique et je vous dis que c'est un problème politique. Voilà, c'est un problème politique, c'est une volonté politique qui doit se mettre en branle, qui doit se mettre en œuvre, qui ne se fait pas.
Vous pensez que l'appel et le désir de beauté ne sont pas assez contentés dans la culture française
je
aujourd'hui?
Je pense que l'éducation passe par l'art, tout simplement. C'est la seule façon de retirer notre sauvagerie, c'est justement par l'éducation artistique qui est capable de nous débarrasser justement de notre barbarie. Donc il faut la prendre en charge, c'est ce que fait le théâtre grec depuis bien longtemps. Mais dans le théâtre grec, il y a une barbarie, il y a une sauvagerie, il y a une violence. Cette violence aujourd'hui, elle est mise de côté. On ne croit plus à la catharsis. Il faut divertir, divertir, divertir. Mais quand vous divertissant, vous anéantissez les spectateurs. Ils sont anéantis.
Ben nous, on n'est pas anéantis du tout. On est très content de vous recevoir en direct ce soir, Bruno Dumont. On était très content de pouvoir parler de Jeanne qui va pouvoir sortir demain, et on est très heureux de pouvoir entendre un des extraits de votre nouveau film, car vous avez eu l'excellente idée de demander à Christophe, oui Christophe, de chanter et de jouer dans votre film. On l'écoute.
Tout à fait sûr. Et ce que je ferai quand je serai dans la rue et sur la place, de ce que je dirai. Pardonnez-moi, pardonnez-nous à tous le mal que j'ai fait. Mais je sais bien que j'ai bien fait de vous servir. Nous avons bien fait de vous servir ainsi.
Salut Christophe, il paraît que vous êtes au téléphone, vous êtes où ?
Je suis du côté de Port-Grimaud, en Méditerranée, sur un voilier où je vis pendant 2 mois, où j'avais d'ailleurs pas mal travaillé sur la BO du film de Bruno.
Alors
vous m'entendez bien ?
Ben, je vous entends, oui. Vous connaissiez l'histoire de Jeanne d'Arc, comme nous tous, les petits Françaises et les petites Français, on a appris ça à l'école.
Ouais, ben ça un petit peu, oui. Mais je veux dire, pour être cas, j'étais passé à autre chose et j'avais quand même pas mal oublié, quoi.
Et alors ?
J'ai retrouvé mes marques par rapport à l'histoire, Charles Péguy, par rapport à Bruno qui m'a remis un peu sur la sellette, vous voyez ?
Vous avez relu Charles Péguy ?
Bah, je l'ai surtout travaillé pour par rapport à mes créations audio, quoi. Hein. J'étais obligé de revisiter un peu les textes, de les bouger, de les classer un petit peu, malheureusement, et pour arriver à les faire sonner, pour donner ce que vous entendez là, ce que vous venez d'entendre. Et je ne sais pas si vous avez vu le film.
Si, bien sûr.
Voilà, mais... moi je l'ai toujours pas vu parce que je suis pas là pour je suis assez loin, mais j'espère que j'aurai l'occasion quand je vais rentrer moi début octobre d'aller le voir au cinéma. Voilà.
Musique et spiritualité font-ils bon ménage ? Ça fait longtemps que vous nous faites tourner les cœurs et vous nous faites tourner tout court, Christophe. Mais là, avec Dieu, comment ça s'est passé ?
Vous savez, c'est surtout l'image des personnages qui m'ont en fait qui ont déclenché une inspiration très très particulière. Et effectivement, quand il y a un truc que je raconte beaucoup, c'est que quand j'ai fini la BO de ce film et j'ai quitté le film, j'étais comment ? Il me manquait. Voilà, bon, voilà un peu le point de rencontre avec ce dieu-là. C'est quelque chose d'assez surréaliste, quoi. Mais ce que j'ai bien sûr aimé, c'est toutes les attitudes, tous les moments, les dialogues de Charles Péguy, la folie de Bruno Dumont qui est venu me chercher pour faire cette musique. Et franchement, c'est une des plus belles récompenses de ma vie de passionné de créateur, vous voyez, de peintre sonore. Alors sur cette histoire, j'ai fait un peu comme des fresques sonores. Après, bien sûr, il a fallu que je mette ma voix, ce que Bruno l'a voulu, hein, parce que au départ, j'aurais adoré que ce soit la petite qui chante. Et puis après, bah, il m'a emporté dans une histoire de comment un petit peu d'acteur comme ça, hein, où je me suis laissé embarquer, parce que c'est vrai que je n'ai jamais voulu faire de cinéma, mais Godard m'aurait dit dans les années 60, viens de faire un petit rôle, je crois que je l'aurais fait. Et donc, quand Bruno m'a demandé, je l'ai fait, bien sûr, avec comme si c'était un cadeau de Dieu, vous voyez.
Je vois très bien, mais d'ailleurs, vous êtes très convaincant et plutôt effrayant, mon cher Christophe, dans le film de Bruno Dumont. On vous donnerait pas le bon Dieu sans confession, sans faire de mauvais jeu de mots.
Ben, ça, c'est vous. Ça, c'est votre ressenti. C'est comment c'est bien. En ce moment, je fais beaucoup d'interviews par rapport à ce film, et c'est vrai que comment j'adore ce que les gens me racontent, puisque moi, je me suis pas vu. Mais normalement, j'aime pas me voir d'abord au cinéma. Et je sais pas ce que je peux déclencher, mais voilà, je sais ce que je déclenche chez vous, c'est déjà bien.
Ben écoutez, on vous attend à Paris, puisque vous n'habitez pas très très loin de la maison de la radio. On ira revoir le film de Bruno Dumont tous les deux, d'accord?
Ah ouais, avec plaisir. Vous savez, j'adorerais. Ouais, il faudrait trouver un cinéma qu'il donne encore, ouais.
J'espère que ça va durer longtemps. Ben merci infiniment. J'espère que ce film va marcher et qu'il sera en exploitation pendant longtemps. Bon, ben passez une bonne soirée sur votre bateau, Christophe. Hein. Nous, on va continuer.
J'ai un studio dans le bateau et je suis toujours en train de faire de la musique. D'ailleurs, enfin, je vous l'ai dit, l'année dernière, j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur la musique. J'ai beaucoup créé dans ce bateau, quoi. Bon. Sur les images de Bruno que j'adore, parce que c'est une des belles rencontres de ma vie, quoi.
Bon, ben faites-nous une petite création pour nous, l'heure bleue, hein. Vous nous l'aviez promis l'année dernière, dans votre bateau. Non, oui. D'accord?
Ah, bah ouais, d'accord.
Ok.
Ça, on en reparle quand on se voit, mais si j'ai quelque chose qui me traverse, j'aimerais bien essayer.
Bon, ben on vous attend. En attendant,
J'attends que ça vienne tout seul.
Ouais, bah ça va venir.
Bon. Écoute, comme un miracle, quoi.
Bah voilà, comme un miracle. D'ailleurs, on a un autre miracle sonore à vous proposer, et à Bruno Dumont, et à vous, Christophe. On a fait une petite enquête sur tous les cinéastes qui ont voulu parler de Jeanne d'Arc. Évidemment, il y en a beaucoup. On en a sélectionné quelques-uns. Et nous allons essayer, nous n'allons pas être à votre hauteur d'inventeur sonore et de peintre de fresques sonores comme vous, mon cher Christophe, mais écoutez les différents extraits que nous vous avons préparés sur Jeanne d'Arc.
Gentle little dauphin, I am sent to you to drive the English away from Orléans and from France, and to crown you king in the cathedral at Reims, where all true kings of France are crowned.
You see? She knew the blood royal. Who dare say now that I am not my father's son? But if you want me to be crowned at Reims, you must talk to the archbishop, not to me. There he is.
My lord, I am only a poor country girl.
Mon nom est Jeanne, j'ai 19 ans.
Jurez de dire la vérité.
Je le jure.
Où avez-vous été baptisé?
Dans l'église de Don Rémy.
Qui vous a pris votre croyance?
J'ai appris de ma mère le paternoster, l'Ave Maria et le Credo.
Dites un paternoster.
Confessez-moi, je le dirai en confession.
Chez vos parents, que faisiez-vous?
Je travaillais à la maison, je n'allais pas au champ avec les brebis et autres bêtes.
Je ne sais plus les mots. Dites-moi quel mot leur dire. Montrez-moi le mot. Montrez-moi le signe de divin secours. Je vous ai toujours obéi. Vous ne pouvez pas m'abandonner.
Répondez-moi. Je vous en supplie. Répondez-moi.
Vous avez successivement entendu de courts extraits de Sainte-Jeanne d'Otto Preminger, 1957, du procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson, 1963, de Jeanne la Pucelle de Jacques Rivette, de 1994, le tout mixé sur la musique de la Passion de Jeanne d'Arc de Karl Dreyer, de 1928. Vous, Bruno Dumont, je crois que c'est Dreyer que vous préférez dans toutes les versions de Jeanne.
Oui, mais j'aime beaucoup Cécile Bédomil quand même. C'est-à-dire que je voudrais dire bonjour à Christophe, parce que j'ai pas eu l'occasion de lui dire bonjour. Donc je te salue, mon ami. J'imagine que tu es à la pêche. J'espère te revoir bientôt. Il est modeste, mais bon, c'est un génie aussi, lui, je pense. Donc Cécile Bédomil, oui, c'est d'abord, il... Sa Jeanne d'Arc doit avoir, une trentaine d'années. Elle est assez massive, c'est une tragédienne. C'est très hollywoodien, c'est-à-dire qu'il a... J'ai jamais vu autant de figurants, etc. C'est vraiment Hollywood en 1914, je pense. Donc c'est très très beau, c'est muet. Et ça m'a beaucoup inspiré, en fait. Je pense qu'il y a deux films qui m'ont inspiré, en fait, pour faire ma Jeanne. C'est justement lui qui compte beaucoup, et Méliès, un peu plus tôt, en 1900, deux films muets, et qui sont vraiment dans le merveilleux. Voilà, c'est ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'était vite partir dans le merveilleux, c'est-à-dire porter Jeanne dans une dimension poétique extraordinaire, et qui nous fait pointer exactement au-delà de l'histoire, au-delà de ce qu'on sait d'elle, quelque chose d'universel et une métaphore de nous-mêmes, finalement.
Alors, vous dites « ma Jeanne », Bruno Dumont. Ce qui frappe dans ce film, d'abord, c'est la grâce de la construction cinématographique, c'est les longs plans qui fixent le visage de Jeanne, c'est l'âge qu'a Jeanne, 12 ans,
c'est
10, c'est le caractère très déterminé et l'instinct de liberté qui appartient peut-être d'ailleurs à l'enfance, dont vous parliez dès le début de cette émission, et qui fait que la certitude qu'elle a dans son corps, qui est reflétée dans son visage, parce que le cinéma, même s'il est spirituel et s'il est un appel vers la mystique et vers la croyance en Dieu, il montre quand même des visages. Et vous montrez ce visage tout le temps, presque à chaque plan de votre film, Jeanne. Et ce visage, c'est le visage de notre liberté, de chacune de nos libertés. Parce qu'elle a raison, parce qu'elle est pétrie par sa croyance en ses propres certitudes. Et elle a raison contre tout le monde. C'est ça qui vous a intéressé ?
Oui, c'est ce que vous ressentez. Mais pour vous faire ressentir ça, il faut que je filme Lise, la petite Lise. C'est-à-dire que il y a à la fois l'entrée et la sortie. Donc le cinéma, c'est une mise en scène, c'est justement filmer une petite fille du Nord, la petite Lise qui a 10 ans et qui porte en elle le trésor de l'enfance. Et moi, je passe du temps à la filmer, comme vous dites, des plans, en entendant Christophe qui chante le texte de Peggy sur elle. Et toute cette orchestration, c'est justement la magie. C'est-à-dire, ça vous fait ressentir ça, mais c'est vous qui ressentez. Moi, je ne fais que poser ma caméra en plongée, faire tenir un plan qui dure à peu près 4 minutes, je pense. Elle regarde le spectateur fixement dans sa petite armure. Christophe chante un texte de Peggy, qui est extraordinaire. Et il se passe quelque chose. Voilà, c'est la magie du cinéma. C'est qu'il se passe quelque chose dans le cœur du spectateur, ce dont vous venez de témoigner à l'instant même.
Mais il n'y a pas que cela. C'est-à-dire qu'il y a un message d'universalisme à l'intérieur de ce film. Elle a une croyance, elle ne va pas y déroger, elle est prête à en mourir pour cette croyance, qui va d'ailleurs arriver dans la réalité historique, oui. Parce que même si votre film n'est pas historique, il respecte quand même les différentes étapes du calvaire de Jeanne, et la manière dont, dans les brûlures de l'histoire, elle est restée comme une sorte de symbole, encore aujourd'hui, en 2019, d'une résistance que nous pouvons tous et toutes avoir, parce que nous sommes peut-être toutes et tous un tout petit peu Jeanne.
Ah, mais je pense que c'est ça, que Jeanne d'Arc, finalement, c'est la représentation métaphorique du cœur humain. C'est-à-dire, c'est quelque chose de petit qui va devenir très grand. C'est l'histoire d'une petite fille toute simple qui va devenir quelqu'un de gigantesque en termes de vie, d'action. Elle va côtoyer les puissants, elle va mettre le roi de France sur son trône, elle va s'opposer à l'Église, elle va être jugée par l'Église, elle va faire face tout le temps, elle va tenir tête. Mais je pense que ça, c'est l'enfance. C'est quelque chose qui est en nous et qui naît quand on a 10 ans. Et voilà, et c'est le nerf de la guerre, mais je pense que c'est le nerf de l'enfance. Et quand je filme, pour ça je filme pas une petite fille, je filme le nerf de l'enfance, c'est-à-dire que tout à chacun peut venir au bord de Jeanne, et en fait, on se voit. C'est-à-dire que c'est soi qu'on voit. Mais c'est ça le cinéma. Le cinéma, c'est pas autre chose qu'un grand miroir. Voilà, et Pasolini qu'on entendait tout à l'heure, et les chansons de Christophe, et tout ça, c'est des artistes justement qui sont en train de tisser le mystère de notre âme, de ses élans, de ses saveurs, et ce grand tournis qui est la vie en fait.
Dans votre film, Bruno Dumont, il y a de la profondeur de champ, pas seulement réelle dans vos plans, mais il y a de la profondeur de champ métaphysique, et c'est une leçon, notamment dans le dernier tiers du film, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est-à-dire que cette petite Jeanne, si frêle, qui va s'opposer à l'Église, elle va pas seulement être portée par sa foi, elle va être portée par l'intelligence de sa raison. Et elle va raisonner, et elle va répondre.
Oui, tout à fait. Mais en même temps, il n'y a pas de métaphysique, il n'y a que de la physique. Au cinéma, on filme des corps, on filme des gens. C'est pas compliqué le cinéma. Alors ça peut porter très loin, mais la surface du cinéma est très simple. La surface de Jeanne est très simple. C'est des corps, c'est des êtres, et finalement qui se font face, qui résonnent diablement bien. C'est-à-dire effectivement la petite, elle a un raisonnement tout à fait percutant, tout à fait fort. C'est-à-dire qu'elle est animée par sa foi, elle est animée par son cœur. Et ce qui est tragique, c'est justement qu'elle va être condamnée, et c'est, en même temps c'est aussi ça qui est beau dans le théâtre de la vie de Jeanne d'Arc, c'est son destin en fait qui est terriblement triste, terriblement tragique, sachant qu'elle est montée tellement haut quoi. Et ça c'est du théâtre magnifique, son histoire réelle, en même temps. Ce qu'a fait Peggy, comme tous ceux qui ont adapté Peggy, que voilà, ils ont tous été aux sources, c'est-à-dire ils ont tous été aux minutes du procès. Donc tout ce qui se passe, c'est la vérité de ce qui s'est passé dans l'histoire, tous les faits, tous les personnages, Gilles de Rais, Cochon, tout ça est vrai. En même temps, ils sont portés à une dimension poétique parce que cette histoire est intemporelle finalement.
C'est la croyance en la beauté du monde ou la croyance en Dieu qui peut nous aider le plus?
Sûrement pas en Dieu, c'est là que Dieu n'est là, c'est du théâtre, c'est pareil, je parlais de Pasolini, non, tout ça c'est de la poésie. Dieu c'est de la poésie, donc il y a quelque chose dont Dieu est la représentation qui est un mystère, donc il faut laisser le mystère être un mystère.
Ben merci infiniment.
Mais c'est moi.
Bruno Dumont, et vive Jeanne.
Vive Jeanne.
Vive notre Jeanne. Merci infiniment.
Moping
Et c'est avec Bon Hiver que nous allons nous quitter ce soir, non sans remercier Greg Vallon qui est à la technique, Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, Élodie Royer, Adrien Nazelli et Louise Douillet, et Lilian Allôme qui a réalisé cette émission.